Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocats, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocats.com.
Votre point de repère.
OK, la chronique en droit du travail maintenant. Pas le choix de revenir sur le dossier Phoenix qu'on pensait régler. Mais là, ça revient dans l'actualité avec cette indemnité de 2 500 $ imposable finalement. Contrairement à ce que le syndicat semblait avoir compris, donc le syndicat n'est pas de bonne humeur. On va aller voir ce qu'en pense Maître Philippe Coderre. Salut Philippe.
Salut LP.
Qui a raison là-dedans? Yo.
Ben, je peux comprendre le syndicat d'être fâché, parce que pour les auditeurs, là, comment ça fonctionne quand on négocie une transaction en droit du travail, c'est qu'il faut qualifier les montants qu'on donne. Parce que la règle de base, c'est que si dans un dossier X, l'employeur paye 10 000 $ ben on doit déduire soit des retenues à la source habituelle, soit de l'impôt là, pour une indemnité de départ. Donc, il revient moins d'argent dans les poches du salarié. Puis comment qu'on contourne ça un peu? C'est en qualifiant les montants de façon nette. Donc, si je peux prendre un exemple, un employé veut 10 000 net dans une transaction. L'employeur, pour payer ce 10 000 net-là, devrait payer 15 000 $ brut. Donc, l'employeur pourrait dire au salarié, ben, je t'offre 10 000 $ net. Cela étant, les parties ne peuvent pas entre elles convenir de déroger à la loi. Donc, si le recours intenté par l'employé ne permet normalement pas d'avoir des dommages moraux, les instances fiscales pourraient s'immiscer là-dedans puis dire, hey, vous avez donné du salaire déguisé afin d'éviter de payer l'impôt. Donc, dans le cas de Phoenix, ce que j'ai compris, moi, en juin dernier, je pense quand ça avait été conclu, c'est que les parties ont dit que ça allait être 2 500 $ en dommages moraux et qu'ils allaient demander à l'ARC une opinion pour savoir si c'était adéquat dans le cadre du processus. Et là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il semble que le Conseil du Trésor, avant d'avoir cette opinion-là, a émis des chèques avec des déductions. Alors, je comprends le syndicat de ne pas être de bonne humeur, parce que quand on s'entend entre les parties sur la qualification d'un montant,
oui,
normalement, là, le litige est avec l'instance fiscale et non pas entre les parties. Ça a déjà été réglé, ce volet-là.
Oui, parce que si je vais en cours contre mon employeur pour dommages moraux, et que j'obtiens, mettons, 10 000 $ ça va être 10 000 $ clairs, ça ne sera pas 10 000 $ imposables.
Exactement, exactement. Bien, le loophole, là, si tu me permets l'expression, c'est justement quand tu as un dossier pour congédiement, par exemple, puis que tu veux du montant net, il faut s'assurer que la plainte, donc que le véhicule que tu as utilisé, te permet d'avoir des dommages moraux. C'est-à-dire, il faut s'assurer que le juge pourrait t'en donner. Et si le juge, la réponse, c'est non, il ne pourrait pas t'en donner en vertu du recours que tu as intenté, bien, si tu en mets dans la transaction, les instances fiscales vont dire que c'est du salaire déguisé qui n'aurait pas dû être donné.
Je comprends.
C'est ça la règle.
Est-ce qu'on peut faire annuler une transaction si elle devient inéquitable après qu'on constate là, les considérations fiscales, justement?
Ça, c'est très, très rare que c'est accepté. Il y a quelques critères. Il faudrait que la transaction soit manifestement déraisonnable, inéquitable, que le salarié n'ait pas eu, par exemple, de conseil juridique, puis que l'employeur ait volontairement profité de la vulnérabilité du salarié. On peut penser à un cas, par exemple, quelqu'un qui dépose une plainte pour pratique interdite en vertu de la loi sur les normes du travail. Ce recours-là ne donne pas droit à des dommages moraux. Supposons que l'employé veut 25 000 $ que l'employeur ne veut pas payer 40 000 brut pour lui donner 25 000 $ puis qu'il lui dit « je vais te donner 25 000 en dommages moraux » et que le salarié n'est pas représenté et que l'employeur le sait que ça ne passera pas, ben peut-être un cas comme ça, ça pourrait justifier là, l'intervention du tribunal pour faire annuler la transaction. Mais autre que ça, c'est très, très rare. Puis quand on parle d'un syndicat, on s'entend qu'on n'est pas dans ces critères-là. D'un syndicat, c'est outillé, là, ça a une grosse machine derrière ça. Alors ici, ça semble être plus un geste précipité de l'employeur qui semble avoir été fait. Puis je trouve ça très, très curieux ouais. comme situation.
Ce qui est plate, c'est que ça va entraîner un bris de confiance. Et ça peut toucher pas mal de monde. Tu sais, quand on parle du fédéral, ça touche beaucoup d'employés de un. Mais quand ça touche l'appareil du gouvernement, surtout en période de crise comme ça, tu sais, s'il y avait des répercussions éventuellement, je sais pas moi, des moyens de pression, une grève, peu importe, ben ça finit par affecter tous les contribuables.
Exactement, parce que tu sais, ni toi ni moi avons vu comment que c'était libellé la transaction, qu'est-ce qu'ils ont signé, mais effectivement, quand une partie ne respecte pas ce qui est écrit, puis là, on présume, là, on s'entend, à ce moment-là, c'est sûr que pour les prochaines transactions, ça va être très difficile de négocier, parce que là, il y a un prix de lien de confiance là, à la table des négociations. Ça va être très difficile pour le futur, cette situation-là.
Autre dossier maintenant, Philippe, qui touche le fédéral également, celui de Julie Payette. On a appris cette semaine qu'elle a embauché une firme d'avocats de Toronto qui dénonce l'ingérence politique dans l'enquête. On semble dire qu'elle n'a pas vraiment eu la chance de donner sa version des faits. Est-ce que c'est une procédure habituelle, ça?
Ben, en fait, cette firme-là, selon ce que j'ai compris, a été embauchée pendant l'enquête qui a eu lieu. Donc, et cette firme-là a écrit, je crois là, que c'était au bureau du premier ministre, en disant que on trouve ça particulier qu'on n'a pas la chance de répondre aux allégations du rapport d'enquête. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois types d'enquêtes qu'on peut faire au fédéral en matière d'harcèlement. Il y a d'abord les enquêtes qu'on appelle le prima facie, donc des enquêtes là, qu'on recherche, on collecte les faits, mais on se limite à ça. Et on se demande si tous ces faits-là étaient avérés, est-ce que ça constituerait du harcèlement? Donc, on se fiche de la version des faits de l'autre partie. On veut juste savoir si on a assez de stock pour aller plus loin. L'autre façon de faire, c'est de faire une vraie collecte de faits dans laquelle la partie mise en cause, donc la partie qui est accusée de faire du harcèlement, a l'occasion de donner sa version des faits. L'enquêteur va supposer le tout, puis va déterminer si oui ou non les faits justifient du harcèlement. Puis enfin, il y a une enquête complète où l'enquêteur va venir donner son opinion à la fin. Il va venir dire « Voici les faits, puis selon moi, c'est du harcèlement et je vous recommande telle mesure. » Ici, ce que le fédéral dit, c'est qu'on faisait une enquête prima facie, donc l'opinion de Mme Payette n'était pas pertinente. On voulait juste savoir, à la lumière de tous les faits colligés qui n'ont pas été testés, donc on ne les a pas évalués, est-ce que ça pourrait constituer du harcèlement? Donc, c'est quelque chose que, oui, on voit très souvent. Si je peux me permettre, j'ai quand même plusieurs dossiers sur la table présentement dans des dossiers d'harcèlement, autant des dossiers de gens accusés d'harcèlement que de gens qui déposent des plaintes d'harcèlement. Et au fédéral, je vois beaucoup cet argumentaire-là, c'est-à-dire contester la façon dont les enquêtes sont faites. Il semble y avoir une mauvaise communication des fois entre l'enquêteur et les parties. Puis ça cause plusieurs griefs et chicanes là, au fédéral. Je le vois moins, on dirait, au privé là, au Québec. Donc, ouais. C'est quelque chose que je vois souvent.
Ouais. Là, c'est sûr qu'il y avait du politique derrière ça aussi. Donc, c'est un peu particulier quand on parle d'une vérificatrice générale qui est nommée de toute façon par le premier ministre. Alors, ça pouvait pas bien se terminer, cette histoire-là. En terminant, le Canadien de Montréal, bon, qui fait la manchette aujourd'hui, bien sûr, pour le congédiement de Claude Julien, mais qui est aussi poursuivi par un ex-employé licencié, justement, qui prétend que la pandémie n'a été qu'un prétexte. Il a déposé une poursuite devant les tribunaux, une plainte à la CNESST également. J'imagine qu'il y a pas mal de dossiers comme ça présentement?
Énormément, parce que, veux pas, il y a eu plus d'abolition de poste ou de licenciement qu'on voyait auparavant. Et chaque fois que quelqu'un voit que c'est lui l'heureux élu, finalement, la personne qui va perdre son emploi, c'est certain qu'il y a tout le temps ou qu'il y a plus de contestations. Des fois, il y a de l'incompréhension aussi. On se demande pourquoi moi, pourquoi pas lui. Alors oui, je dirais que présentement, c'est des dossiers qu'on voit souvent.
C'est quoi les critères d'évaluation pour déterminer si c'est vraiment la pandémie qui est en cause ou non?
Bien, ça, c'est on peut reprendre une analogie avec le Canadien, là, dans le fond. Là. L'important, c'est de choisir le meilleur joueur disponible. Donc, prendre Ketchuk au lieu de Kéké, par exemple. Ça, c'est un peu le critère à prendre. On doit éviter En fait, on doit prendre des critères qui sont objectifs. C'est vraiment ça, le critère. La première chose que le juge va évaluer, c'est s'il y avait une situation qui justifiait l'abolition de poste ou la réorganisation. Donc, il faut quand même expliquer pourquoi qu'on fait ça. Un motif qu'un employeur peut utiliser, c'est pas toujours une question d'argent. On n'est pas toujours obligé de dire on perdait de l'argent. On peut juste dire, ben, pour être plus efficace, je pouvais couper un poste, puis ça me permettait d'être tout aussi efficace, puis de sauver un peu de sous. Donc, ça, c'est un motif qu'on peut utiliser. Et quant aux critères, ça doit être des critères qui sont objectifs. Donc, on ne peut pas commencer à sortir là, des vieilles histoires qui sont survenues avec l'employé en 2017.
Pas documenté.
Ouais. Où on dit que c'est quelqu'un de déplaisant. Donc, on pense que pour l'avenir, c'est quelqu'un qui ne fit pas dans l'organisation. Il faut absolument se dire si, avec le bagage d'outils des employés visés, quelle personne va me permettre objectivement d'avoir le meilleur rendement dans le nouveau poste là, qu'on va créer ou dans le seul poste qui va rester. Donc, faut vraiment rester objectif. L'ancienneté n'est pas un critère obligatoire. Ça peut en être un. Le rendement peut en être un. Toutes sortes de critères qui doivent être objectifs.
Ouais. Je suis pas capable de la polyvalence, hein, quand on fait des compressions, la polyvalence peut être un critère important. Mais écoute, on doit s'arrêter là, mais je retiens en t'écoutant que Claude Julien peut contester son congédiement en disant c'est la faute de Marc Bergevin qui n'a pas pris le meilleur joueur disponible. Si on avait eu Tkachuk, on aurait gagné contre les Sénateurs et j'aurais pas été congédié.
Bon, ben, si Claude a besoin de service, il peut m'appeler. Je prendrai ma retraite après ça.
Bonne chance, Philippe. Tu m'en donneras des nouvelles.
Merci.
Salut. Au revoir.